VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le Mali donne demain mardi le coup d'envoi du premier test de grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé à ce jour contre le paludisme. Une maladie qui fait chaque année plusieurs centaines de milliers de morts en Afrique. C'est bien le Malawi qui donne le coup d'envoi. Les précisions d'Anne Alberson.
La campagne de vaccination débute dans un centre de santé de la capitale malawite, Lilongwe, et se poursuivra la semaine prochaine au Ghana et au Kenya, les deux autres pays pilotes du programme. Baptisé Mosquirix ou RTSS, ce vaccin a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline et l'ONG PATH et financé par l'Alliance du vaccin, Gavi, le Fonds mondial de lutte contre le sida et le paludisme et l'UNICEF. Aboutissement de plus de 30 ans de travaux et d'un investissement $1 milliard, cette campagne vise à confirmer l'efficacité du vaccin sur des enfants âgés de moins de 2 ans, les plus vulnérables à la malaria. L'Organisation mondiale de la santé espère vacciner 120 000 enfants dans chacun de ces trois pays d'ici à 2020. Lors des essais préliminaires menés de 2009 à 2015, il a permis de réduire de 39% le nombre d'épisodes paludiques chez les enfants de 17 mois à 5 ans. Son efficacité n'est donc que relative, mais chercheurs et autorités sanitaires espèrent que, associés aux moyens de prévention, tels que les moustiquaires imprégnés de répulsifs, il permettra de réduire sensiblement le nombre de victimes. Selon les statistiques de l'OMS, l'Afrique est de très loin le continent le plus touché par le paludisme, avec 90% des 435 000 personnes tuées dans le monde en 2017 par cette maladie transmise par des moustiques.
Merci Anne. Au Mali, 11 soldats ont été tués dans une attaque à Guirée, près de la frontière mauritanienne. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Guirée est une commune située à 300 km de Bamako, dans le cercle de Nara, région de Kouliko. Elle a été attaquée hier dimanche à 5h du matin par une colonne de véhicules d'assaillants, des terroristes lourdement armés qui ont attaqué un détachement de l'armée malienne. Bilan 11 soldats tués, plusieurs véhicules emportés ainsi que des armes et munitions. Le camp a été totalement détruit et incendié. Après leur forfait, les terroristes, avant de se retirer de la ville, ont pu ramasser leurs victimes au nombre de 17 avant l'arrivée des renforts des militaires maliens. Ce sont les populations de Guirée qui se sont occupées des soldats victimes et blessés. Les renforts, une fois sur place, ont ratisé la localité. Il faut signaler que la commune de Guirée est située non loin de la forêt de Ouagadou, lieu de passage des groupes terroristes entre le Mali et la Mauritanie, mais aussi une zone de refuge pour eux. La présence du camp des Fama réduisait leur mobilité dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, l'une des voix de la très influente Église catholique du pays, a estimé que les récents événements sociopolitiques n'ont pas beaucoup réalisé les rêves du peuple congolais. Dans son message de Pâques, 3 mois après la première alternance à la tête de l'État, Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu a déclaré « Dans notre pays, nous célébrons cette fête dans un contexte où le désespoir gagne de plus en plus les cœurs des Congolaises et des Congolais. » L'archevêque de Kinshasa, rappelle-t-on, conteste tout comme le candidat Martin Fayoulou le résultat officiel de l'élection du 30 décembre dernier et la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi. Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui en Égypte au troisième et dernier jour d'un référendum sur une révision constitutionnelle controversée visant à prolonger jusqu'en 2030 la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi, accusé de violation des droits humains. Les résultats du scrutin, qui a débuté samedi, devraient être connus au plus tard le 27 avril et devraient sans surprise être favorables au chef de l'État égyptien. L'armée au pouvoir au Soudan a exigé aujourd'hui la levée des barrages et points de contrôle établis par des manifestants sur les routes menant à son QG à Khartoum, devant lequel campent des milliers de personnes pour réclamer un gouvernement civil. Les manifestants rassemblés à cet endroit depuis le 6 avril pour réclamer le départ du président Omar El-Béchi exigent désormais la dissolution du conseil militaire de transition qu'ils accusent d'être composé d'anciens éléments du régime de Béchi qui a régné pendant trois décennies sur le Soudan. Ce conseil a pris les commandes du pays après la destitution le 11 avril par l'armée de M. Béchir sous la pression de la rue après 4 mois d'une contestation populaire inédite déclenchée par le triplement du prix du pain.
Nos infos sur voaafrique.com.
Direction l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a remporté dimanche la présidentielle avec une majorité écrasante face au sortant Petro Porochenko. La victoire de l'artiste comédien ouvre une page riche en incertitudes pour ce pays en guerre aux portes de l'Union européenne. Idrissa Seydoudia.
L'acteur et humoriste ukrainien, qui est âgé de 41 ans, a obtenu, selon les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote, environ 73% des voix au second tour, contre 25% pour son adversaire, un scénario encore inimaginable il y a quelques semaines. Cette victoire s'inscrit, selon les observateurs, dans la vague mondiale anti-élite. Zelensky ayant promis de casser le système caractérisé, selon lui, par le copinage et la corruption. Le président Porochenko est considéré comme un vétéran de la classe politique ukrainienne.
Les principaux responsables de l'Union européenne ont félicité aujourd'hui le comédien Volodymyr Zelensky pour son élection à la présidence de l'Ukraine, estimant que le scrutin avait montré l'engagement envers les valeurs démocratiques de ce pays en guerre aux portes de l'Union européenne. Dans un message commun adressé à M. Zelensky, le président du Conseil européen Donald Tusk et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker soulignent le fort attachement à la démocratie et à l'état de droit que le peuple d'Ukraine a démontré tout au long du processus électoral. Autour de 290 personnes ont été tuées et 500 blessées dans les attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka, selon un nouveau bilan annoncé ce lundi par la police locale. Les détails, Idriss Fall.
4 hôtels de luxe et 3 églises remplies ont été visées par 8 explosions, dont 6 ont été presque simultanées et au moins 2, selon des témoins, ont été commises par des kamikazes. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées. 8 personnes ont été interpellées. L'archevêque de Colombo a appelé à punir sans pitié les responsables. Le pape François a exprimé sa tristesse en apprenant ces graves attentats le jour de Pâques. Le président Donald Trump a condamné ces attaques terroristes horribles et a offert son aide. La première ministre britannique Theresa May, dont le pays avait colonisé le Sri Lanka, a dénoncé des actes de violence réellement effroyables. Toute notre solidarité avec le peuple sri-lankais, affirme le président français Emmanuel Macron. Le président russe Vladimir Poutine dit s'attendre à ce que les responsables d'un crime aussi cynique et haineux soient punis comme ils le méritent.
Un mouvement islamiste local, le National Tawhid Jamaat NTJ en abrégé, est à l'origine des attaques suicides qui ont fait 290 morts. A annoncé le porte-parole du gouvernement. Le groupe sur lequel peu d'éléments sont connus s'était fait connaître l'année dernière en lien avec des actes de vandalisme commis sur des comptes des statues bouddhiques. En quelques heures dimanche, des bombes ont donc semé la mort et de la désolation dans des hôtels de luxe et églises célébrant la messe de Pâques en plusieurs endroits de l'île d'Asie du Sud. Les forces de l'ordre ont arrêté aujourd'hui 24 personnes à ce stade de l'enquête. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a nommé le général Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne, a rapporté dimanche le site internet de M. Khamenei. M. Salami, âgé de 58 ans, était commandant en seconde des gardiens de la révolution depuis 9 ans et remplacera à la tête de cette force le général de division Mohammad Ali Jafari. Cette nomination intervient moins de 2 semaines après l'inscription par les États-Unis des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Et puis le prochain round de pourparlers de paix entre talibans et États-Unis se concentrera sur le calendrier de retrait de toutes les forces étrangères d'Afghanistan, a indiqué un haut responsable des insurgés. Selon Souhel Shahin, porte-parole taliban en charge des questions politiques, les deux parties ont déjà convenu du principe d'un retrait total lors des précédentes négociations et sur les détails restent à discuter. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.